Les conférences du Collège de France.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence spéciale de la juge Hilary Charlesworth, qui est juge, vous le savez, à la Cour internationale de justice depuis novembre 2021. La juge Charlesworth, avant d'arriver à la Cour internationale de justice à La Haye en 2021, était professeure à la faculté de droit de l'Université de Melbourne, en Australie, donc très loin d'ici, distinguished professor à l'Université nationale australienne et professeure invitée dans de multiples universités à travers le monde. Plus proche de nous, elle a reçu en 2016 un doctorat honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Hilary est la cinquième femme élue à la Cour internationale de justice depuis sa création. Et nombre de ses écrits, comme certaines et certains d'entre vous le savent certainement, s'inscrivent précisément, et nous l'entendrons encore aujourd'hui, dans le mouvement des critiques et des analyses féministes du droit international, avec notamment son fameux article coécrit avec Christine Chinkin et Shelley Wright, Feminist Approaches to International Law. Alors, lors de la conférence d'aujourd'hui, vous aurez vu le descriptif sur le site, la juge Charlesworth nous propose précisément de se pencher sur les critiques qui émanent de différents courants de pensée, critiques de la Cour internationale de justice, certaines très politiques, d'autres moins. Et elle va le faire en s'appuyant sur sa pratique, sa perspective désormais privilégiée de membre de cette institution, avec tous les caveats qui vont avec et qu'elle ne manquera pas de faire certainement plus tard. Donc c'est un grand honneur, chère Hilary, de vous recevoir aujourd'hui pour cette très belle conférence au Collège de France. Merci infiniment d'avoir accepté de la présenter en français aussi. Je sais que c'est un grand effort et nous vous sommes vraiment très reconnaissantes. Il y aura 15 minutes environ de discussion ensuite. Donc si vous le souhaitez, restez bien sûr pour la discussion après la conférence. Merci infiniment encore.
Merci, merci. Bonsoir tout le monde et merci à la professeure Besson. Vous allez... je suppose, manager avec mon français assez rudimentaire. Mais voilà. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier le Collège de France, en particulier la professeure Samantha Besson et son équipe, pour leur invitation. C'est en effet un grand honneur pour moi de vous adresser ce soir. Pour commencer, je ne vous cache pas que, à première vue, le droit international et ses institutions sont en berne dans le contexte politique actuel. Avec la résurgence des nationalismes partout dans le monde, l'idée d'un système juridique international qui imposerait des obligations sur les États n'a vraiment pas le vent en poupe. Dans ce contexte, j'aborderai le rôle de la Cour internationale de justice, dont je suis membre, et qui, comme vous savez, se trouve aux Pays-Bas. Et la voilà. Je discuterai certaines critiques qu'elle a suscitées, critiques qui ne proviennent pas des responsables politiques, mais plutôt de la communauté juridique internationale. À mes yeux, ces critiques sous-estiment ou surestiment le pouvoir du droit international d'influencer le comportement des États. Et je soutiendrai que le droit international doit être compris comme l'un des fils d'un tissu réglementaire, un fil dont la force dépend de son tissage avec d'autres formes d'influence. Et je montrerai que le pouvoir de la CEJ, aussi limité soit-il, n'en reste pas moins un élément central dans la communauté internationale. Permettez-moi de commencer par présenter la Cour internationale de justice en vous donnant trois dates. La première, ici, nous sommes en 1899 et ce sont les délégués à la conférence de paix de La Haye. Cette conférence a été impulsée par le tsar Nicolas II de Russie. La création d'une structure institutionnelle pour l'arbitrage international, la Cour permanente d'arbitrage, était un produit de cette conférence. Elle se situe dans le Palais de la Paix, la voilà encore une fois, un bâtiment financé par l'Américain écossais Andrew Carnegie. Et vous le voyez ici en 1913 à l'ouverture de la Palais de Paix. Deuxième date, 1922. Toujours à La Haye, dans le Palais de la Paix et à côté de la CPA, est inaugurée la Cour permanente de justice internationale, le premier tribunal international permanent à compétence générale. Et ce sont des photos, mais ce que j'aime bien, celui-là, c'est assez artistique, je crois, comme portrait de la Cour. Donc, la Cour a, comme je disais, compétence générale. Et entre 1923 et 1940, la Cour permanente examine 29 affaires entre États et rend 27 avis consultatifs. Et pour les étudiants de droit international parmi vous, c'est le cas de l'affaire de Usina Chozov en Pologne. C'est en train de délibération là-bas. Le troisième date, c'est 1946. Après la Deuxième Guerre mondiale, en vertu de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice remplace la Cour permanente. Et voilà, vous voyez ici le comité de rédaction du statut de la Cour aux États-Unis, à Washington. La nouvelle Cour hérite alors un statut presque identique à celui de son ancêtre, mais elle est élevée au rang d'organe principal de l'ONU, c'est-à-dire au même niveau que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Quelques mots sur sa composition. D'abord, 15 juges qui doivent être de nationalité différente. Et voilà, mes collègues, une photo de l'année dernière. Malheureusement, nous avons perdu notre président, Nawaf Salam, et nous ne sommes que 14 juges à ce moment. Mais tout le monde est donc le président là-bas, évidemment. Il est premier ministre du Liban. Des juges sont élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU pour des mandats renouvelables de 9 ans. Je précise, 15 juges de nationalité différente, car le statut de la Cour impose, et je cite l'article 9, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde, dont la Cour dans son ensemble. Quelles sont les compétences de la Cour? On la confond souvent avec la Cour pénale internationale qui se situe aussi à La Haye. Donc, je dois être précise. La Cour internationale de justice ne traite que des différends entre États et donc ne traite pas d'affaires concernant des individus. Autre point. Comment la Cour est-elle sollicitée? Il faut d'abord comprendre que la Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour sélectionner elle-même les affaires dont elle est saisie. Lors de la rédaction de la Charte des Nations Unies à la conférence de San Francisco en 1945, la question de savoir si la Cour devait avoir une juridiction obligatoire a été débattue. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, ont défendu cette position. Et voilà le chef de la délégation australienne, Dr. H.V. Evatt, un nom très bien connu en Australie, et il signe la Charte des Nations Unies. Mais finalement, c'est le point de vue des États-Unis, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni selon lequel la compétence devrait être volontaire qui a prévalu. Cela signifie que les États ne peuvent être contraints de soumettre leurs différends à la Cour. Il y a trois voies par lesquelles la Cour peut être saisie. Tout d'abord, les États peuvent faire une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. À l'heure actuelle, 74 États, soit près de 40% des membres des Nations Unies, ont fait des déclarations de ce genre. Certains États, dont la Chine, la France en 1974 et les États-Unis, ont retiré leur déclaration. Il est frappant de constater qu'un seul des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni, dispose encore d'une telle déclaration en vigueur. La déclaration la plus récente est celle de l'Iran, qui date de juin 2023. De nombreuses déclarations, comme ceux de mon pays, l'Australie, sont toutefois accompagnées de réserves importantes qui limitent la compétence de la Cour. Deuxième voie, la Cour peut être aussi saisie lorsque les deux États sont partis à un traité qui confère à la Cour la compétence de trancher les différends entre eux. C'est le cas, par exemple, pour la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture. La Cour, et la voilà ici, examine actuellement plusieurs affaires fondées sur ces traités, notamment une affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël en vertu de la Convention contre le génocide, et une autre opposant le Canada et les Pays-Bas à la Syrie, en vertu de la Convention contre la torture. Troisième voie, il est possible pour les États de conclure un compromis, c'est-à-dire un accord spécial pour soumettre un différend à la Cour. Par exemple, dans une affaire actuelle, le Guatemala et le Belize, qui ont une frontière commune, ont convenu de soumettre un différend territorial à la Cour. Il faut aussi savoir que la Cour internationale de justice dispose d'une compétence consultative. Cela signifie que certains organes de l'ONU peuvent lui demander un avis sur toute question juridique. En près de 80 ans d'existence, la Cour internationale a ainsi été saisie de 165 affaires contentieuses et a reçu 32 demandes d'avis consultatifs. Comme vous savez peut-être, aujourd'hui, la Cour se trouve à l'un des moments les plus chargés de son histoire. Et voilà le plus récent différend entre le Soudan et les Émirats. Devant elle, une longue liste d'affaires, dont 22 affaires contentieuses provenant de toutes les régions du monde. Leurs sujets sont variés. On retrouve des différends relatifs aux frontières terrestres et maritimes, mais aussi des affaires concernant des allégations de discrimination raciale et de génocide. La Cour traite actuellement de 3 demandes d'avis consultatifs, 2 émanant de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'une sur les obligations juridiques internationales liées au changement climatique, et l'autre sur l'activité de l'Office pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, l'UNRWA, dans le territoire palestinien occupé. La troisième demande émane de l'Organisation internationale du travail et porte sur le droit en grève. Ces chiffres montrent que la Cour jouit d'un regain de respect et d'autorité au sein de la communauté internationale. Sans doute, les profondes divisions politiques internationales qui ont entravé la diplomatie et limité le Conseil de sécurité ces derniers temps semblent, en réaction, avoir rendu la Cour plus attrayante en tant que forum de résolution des différends. Mais, naturellement, ce regain d'intérêt en faveur de la Cour ne va pas sans provoquer de nombreuses critiques. Je vous propose d'en examiner ensemble trois d'entre elles. La première critique est celle dite « réaliste » qui fait florès notamment parmi les spécialistes des relations internationales et dans les ministères des Affaires étrangères et de Défense. Et voilà, je vous montre le universitaire Hans Morgenthau, qui est considéré par le père de réalisme. Après la guerre, il est allé travailler aux États-Unis. Les réalistes considèrent que le droit international est façonné par le pouvoir des États, que le droit international n'a donc qu'une capacité limitée en retour à influencer le comportement des États puissants. Les réalistes attribuent un rôle central à un seul type d'acteur, les États, et à un seul type de motivation, la poursuite de l'intérêt personnel. Ils se méfient donc de ce qu'ils appellent l'idéalisme juridique, qui, selon eux, fait trop confiance aux mécanismes juridiques pour résoudre les problèmes politiques. Pour les réalistes, le trait distinctif d'une véritable institution judiciaire et sa capacité à imposer un respect coercitif des règles. Parce que la justice internationale ne possède pas de pouvoir coercitif, les réalistes considèrent que le point de vue des puissances politiques et militaires et leur évaluation de l'intérêt national prévaudront toujours. Du reste, ils le disent assez clairement, les États puissants peuvent simplement ignorer les décisions judiciaires internationales qu'ils jugent défavorables à leurs intérêts. Le réalisme ne tient pas compte des indications plus diffuses quant au comportement des acteurs apparemment plus faibles. Plus pertinentes sont les versions du réalisme qui s'expriment dans la doctrine juridique internationale. Un auteur, par exemple, comme Eric Posner, a affirmé que la Cour ne pouvait ni plaire aux grandes puissances qui ne tolèrent aucune contrainte sur leurs actions, ni conserver la loyauté des petites puissances qui considèrent la Cour comme étant une marionnette des grandes puissances. Ces mots, il faut dire. Certains spécialistes réalistes ont fait des études statistiques sur le comportement de vote des juges internationaux en se concentrant sur le décret de convergence avec les intérêts de l'État, de la nationalité de chaque juge. Et c'est le sceau de la Cour. Ils ont également expliqué la réticence de certains États à comparaître devant la Cour en raison de leur manque de confiance dans un système judiciaire international, lui appliquerait la loi de manière biaisée. Les juges, selon ce point de vue, votent en faveur de positions qui promeuvent leur état d'origine ou qui reflètent des préjugés culturels. Pour conclure ce point, disons que le potentiel explicitatif du réalisme est limité. Par exemple, la conception réaliste des institutions juridiques internationales comme simple outil de la politique internationale n'explique pas les situations où les États puissants se sont conformés au droit international, même si cela n'était apparemment pas conforme à leurs objectifs politiques. Deuxièmement, critique dite technique. Celle-ci porte sur l'efficacité institutionnelle et la qualité de la jurisprudence de la Cour. Pour en juger, elle adopte une approche positiviste en supposant l'existence de méthodes objectives pour déterminer les règles juridiques valides. Une sous-catégorie de cette critique concerne les méthodes de travail de la Cour qui seraient chronophages et apparemment dépassées. Un exemple, précisément la voilà, est le chapitre écrit par Antonio Cassese, un juge italien bien respecté, avec le titre « Désarmant, la Cour internationale de justice ». Il est grand temps de relooker la vieille dame respectée. Cassese déplore la lenteur de la Cour et appelle à moderniser ses procédures et ses méthodes de travail, quitte même à supprimer le poste de juge ad hoc et en créant un organe d'enquête pour la Cour. Cassese préconise également des réformes, voire à élargir l'accès à la Cour, notamment en augmentant la capacité des États tiers à intervenir dans les procédures contentieuses et en autorisant la participation d'amici curiae dans les affaires contentieuses. Une autre sous-catégorie d'auteurs qui épouse la critique technique de la Cour se concentre sur la qualité jurisprudentielle des arrêts. Exemple, le livre de Mark Weisberg, au titre saisissant, comme vous voyez en français, Échec de la Cour internationale de justice. Il s'agit d'une lecture plutôt décourageante pour une juge, tant est grande le scepticisme de Weisberg au respect accordé aux décisions de la CIJ, et tant est longue la liste des erreurs qu'il a identifiées dans la jurisprudence de la Cour. Selon lui, beaucoup de raisonnements douteux, des études de faits bâclées. Weisberg se montre aussi inquiet de position politique de la Cour. Par exemple, il donne il voit le recul du droit des États à la légitime défense. Et comme si cela ne suffisait pas, il affirme que la Cour s'appuie régulièrement sur des sources de droit non autorisées et qu'il évite souvent de résoudre des différends qui lui sont soumis. Une autre critique sévère, l'universitaire allemand Stefan Thalmann, selon qui, en matière de détermination du droit international coutumier, la méthode de la Cour internationale est, dans son mot, je cite, « probablement pas son point fort ». Troisièmement, des autres approches critiques. Par exemple, celle qui affirme que les intrigues politiques du droit international façonnent le règlement des différends internationaux alors que les cours et tribunaux internationaux s'efforcent de dissimuler cet état de fait. Selon cette analyse, le langage de l'objectivité que l'on retrouve dans les arrêts dissimulerait des choix fondamentalement politiques. Au propos, l'universitaire finlandais Martti Koskiniemi, une figure très importante de l'école critique, décrit le droit international comme tentative d'allier des aspirations ambitieuses à un monde meilleur, tout en étant un ensemble de techniques professionnelles d'analyse des différends. Koskiniemi observe aussi des principes qui contiennent à la fois une aspiration idéaliste et utopique et un récit réaliste qui ferait l'apologie du pouvoir. Exemple, la doctrine du droit international associe le principe de l'autodétermination des peuples à l'affirmation du principe de l'intégrité territoriale. Le premier offre un outil pour critiquer la répression, tandis que le second en limite l'impact, car l'exercice du droit à l'autodétermination est contraint par l'obligation de respecter les frontières et titres territoriaux actuels. Mais tout n'est pas noir pour Koskiniemi. Par exemple, il a loué l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en 1996 dans ce livre. Donc, alors que de nombreux juristes critiquaient le fait que la Cour n'avait pas déclaré illicite la menace ou l'emploi d'armes nucléaires, Koskiniemi a fait l'éloge de la vie. Il y voyait une reconnaissance honnête du fait que le droit international n'est pas un système complet et, je cite, « capable de donner une réponse à tous les problèmes normatifs concevables ». D'ailleurs, dit-il, et je cite, « pour que la voix de la justice soit entendue, le droit doit parfois rester silencieux ». Fin de citation. Je dois mentionner un autre universitaire de l'école critique, David Kennedy, qui a aussi un chapitre dans ce livre, qui a déclaré à propos du même avis consultatif que la Cour opérait dans un monde, les mots de Kennedy, un monde juridique imaginaire, et que son avis était à la fois rusé et lâche. Un autre critique encore, Fouad Zarbiev, qui se plaint du statut accordé aux arrêts dans la doctrine du droit international. Il affirme que cette vision centrée sur les tribunaux répétisse, voire déforme, la pensée juridique internationale. Zarbiev souligne également que les arrêts de la Cour internationale contiennent parfois des raisonnements circulaires, voire faibles. Il existe aussi les critiques féministes qui ont identifié en premier lieu la surreprésentation des femmes à la Cour. Au cours du siècle dernier, on compte en effet seulement 6 femmes qui ont été élues à la Cour contre 144 hommes au cours de la même période. Des universitaires féministes se sont également penchés sur la nature genrée des décisions de la Cour, affirmant que la Cour a tendance à adopter une approche bornée à la résolution des différends internationaux. Dans le contexte des systèmes juridiques nationaux, Margaret Davies, par exemple, a souligné que le droit est généralement présenté comme une sorte de superstructure distincte de la morale, de la politique et de la vie réelle des gens. Elle prône un retour à la vie humaine dans le droit où, dit autrement, et je cite, « la primauté du sujet dans la construction du droit ». Fin de citation. Cette méthode a également été adoptée dans le domaine du droit international, notamment à travers une série de réécritures de certains arrêts classiques de la Cour, et celui-là édité par Lavde, Hobson et Troy Leavis. Ces réécritures illustrent le potentiel des théories féministes à façonner le droit international, même si elles ne remettent pas en question la structure institutionnelle du droit international. En se concentrant sur le genre, les juristes féministes négligent-ils ou elles d'autres formes de diversité ou de parité? Des chercheuses et chercheurs ont proposé qu'il fallait prêter attention à la, et je cite, la diversité selon de multiples accès et de multiples catégories de points de vue et d'expérience, tout en reconnaissant la fluidité de l'identité. Autre approche critique, les approches tiers-mondistes du droit international, aussi surnommées TWIL, l'acronyme pour Third World Approaches to International Law. TWIL s'inscrit également dans le cadre des approches critiques. L'approche TWIL s'intéresse au contexte colonial du droit international et remet en question la prétention à l'application universelle de droit international. L'universitaire Tony Angi a noté que, et je cite, « l'impérialisme, loin d'être périphérique au développement de la discipline, était au cœur de son identité et de son fonctionnement. » Fin de citation. Les chercheurs TWIL ont étudié comme les rapports coloniaux perdurent, voire prospèrent, à une époque de décolonisation supposée. Les chercheurs TWIL ont aussi étudié la Cour internationale de justice. Certaines parmi eux ont étudié l'impact des juges originaires provenant des pays en développement. D'autres, des chercheurs, ont souligné l'importance de certains aspects de la jurisprudence de la Cour pour renforcer l'approche TWIL aux questions de droit international. De même, les spécialistes du TWIL ont identifié des biais en faveur des États puissants dans les décisions de la Cour. On peut citer à titre d'exemple les affaires intentées par la République des îles Marshall contre des États nucléaires en 2014. Quand les îles Marshall cherchaient à faire appliquer les dispositions du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui exige des États nucléaires qu'ils engagent des négociations de bonne foi en vue d'un désarmement nucléaire. La Cour a estimé, voilà la Cour en procès, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour connaître de ces affaires car il n'avait pas de différend entre les parties. Elle a décidé que les États nucléaires défendeurs n'avaient pas été dûment informés de l'existence d'un différend entre eux et les îles Marshall. Les spécialistes TWIL ont remarqué que l'affaire des îles Marshall est, je cite, « renversé le sentiment que le système juridique international était géré par les puissants pour les puissants ». Et ils avancent que la Cour était désireuse de protéger les États nucléaires. Tony Angi a même déclaré à propos de cette décision que, et je cite, « la Cour a renoncé à sa vocation de justice internationale ». Fin de citation. Plus généralement, les spécialistes TWIL ont déploré que la Cour n'accorde qu'une attention limitée aux injustices structurelles mondiales. Ils lui reprochent d'être réticente à aborder des questions telles que celles des disparités économiques et de la redistribution des ressources au sein des États ou entre eux, et de se concentrer plutôt sur les demandes individualisées. Ces critiques semblent être fondées sur une vision assez romantique du rôle de la Cour. Il est toutefois frappant de constater que, malgré leur pessimisme quant à la capacité du droit international, de nombreux spécialistes OEL restent convaincus que la Cour est capable de poser certaines limites à la politique de puissance de certains États. Les diverses critiques de la Cour que j'ai esquissées apportent tout un éclairage important, à mon avis. Mais soit elles sous-estiment le pouvoir du droit international, soit elles le surestiment. À mon avis, nous devrions plutôt nous inspirer des théories plus larges si nous souhaitons mieux comprendre le travail de la Cour. La théorie de la régulation, dite « regulatory theory » en anglais, me semble utile à cet égard et devrait être davantage mobilisée. En suivant les ouvrages socio-juridiques qui ont développé cette théorie, j'utilise ici l'idée de la régulation dans un sens large, comme, et je cite, « l'activité intentionnelle consistant à tenter de contrôler, d'ordonner ou d'influencer le comportement d'autrui » ou, même plus largement, simplement « influencer le cours des événements ». Cette conception large de la régulation inclut toutes les formes de pression visant à modifier le cours des événements, même les effets non intentionnels de l'agence. La régulation va donc au-delà des règles et des mécanismes juridiques à englober les pressions politiques, sociales, économiques et psychologiques. Alors que les réalistes en relations internationales négligent le pouvoir des institutions juridiques internationales, je l'ai dit, la théorie de la régulation souligne la multiplicité et la complexité des acteurs et de leurs motifs dans la sphère internationale en utilisant la notion de réseau d'influence régulatrice. Au niveau mondial, chaque contrôle régulateur tend à être faible individuellement, mais en réseau, il est parfois possible que ceux qui sont en position de faiblesse l'emportent sur ceux qui sont en position de force. Bien entendu, tous les nœuds d'un réseau n'ont pas les mêmes préoccupations ou stratégies. Il peut y avoir de profondes tensions entre eux. Mais la force et le succès d'un réseau dépendent en effet de la gestion des dissonances entre les nœuds. Un théoricien inspiré par la théorie de la régulation éviterait donc d'évaluer l'efficacité du droit en se concentrant sur le degré de respect des normes, à la différence des praticiens du droit international et des théoriciens des relations internationales. Il pourrait plutôt se demander si le droit international peut être une arme des faibles, plutôt qu'un simple outil permettant aux États puissants et de renforcer leur position dominante. Ainsi, quel rôle la Cour internationale de justice pourrait-elle jouer une fois examinée sur cet angle? Un exemple est le recours de Nicaragua à la Cour en 1984, quand celui-ci a affirmé que les États-Unis avaient violé le droit international en minant les ports de Nicaragua et en soutenant les groupes paramilitaires nicaraguains notamment les contre. Et vous voyez ici, ce n'est pas une très bonne photo, je m'excuse, de le président Reagan. Il a invité le chef du contre à le White House. C'était la première fois que la Cour était appelée à se prononcer sur les violations du droit international commises par une grande puissance à l'encontre d'un État en développement. Et voilà l'équipe nicaraguayenne. Peut-être pas quelqu'un, il y aura ceux qui reconnaîtront Alain Pelé et le professeur Ian Brownlee. L'équipe nicaraguayenne à cette époque. Les États-Unis ont d'abord contesté sans succès la compétence de la Cour. Puis, pour protester contre la décision de la Cour, ils se sont retirés de la procédure. La Cour a statué en faveur de Nicaragua en décidant que les États-Unis avaient l'obligation de cesser immédiatement leurs activités. Compte tenu de la non, et voilà, c'est une photo pour à la Cour à ce temps, compte tenu de la non-participation des États-Unis, cette affaire peut apparaître comme une victoire à la Pyrrhus pour le droit international. Mais ce type de différent peut avoir une importance considérable à long terme. Ainsi, l'affaire du Nicaragua a réussi à remettre en cause la légitimité des actions américaines. Elle a mobilisé le soutien international en faveur du Nicaragua et elle fait pression sur les États-Unis pour qu'ils changent leur politique étrangère. Un autre exemple du potentiel de la Cour en tant qu'arme des faibles est le mécanisme des avis consultatifs. On peut penser à l'avis sur les îles Chagos, rendu en 2019. L'enjeu était le statut de l'archipel des Chagos, vous le voyez sur la carte ici, dans l'océan Indien. Au début des années 1970, tous les Chagossiens ont été expulsés de l'archipel. La construction d'une base militaire commune du Royaume-Uni et des États-Unis sur l'île principale de Diego Garcia a depuis empêcher le retour des Chagossiens sur l'île. La République de Maurice a alors mené une campagne aux Nations Unies pour changer le statut des îles Chagos d'un territoire du Royaume-Uni au territoire mauricien. L'une des mesures de cette campagne était une demande d'avis consultatif à la Cour internationale. Et voilà, vous voyez là l'équipe de Maurice. Les procédures de la Cour ont permis aux Chagossiens eux-mêmes d'exprimer leur souffrance. Et une Chagossienne, et vous la voyez ici, Marie-Lisbeth Elysée, a témoigné de manière émouvante par vidéo de son expulsion douloureuse de son île. La Cour a estimé que l'occupation continue de l'archipel par le Royaume-Uni était illicite, alors que le Royaume-Uni avait apposé une forte résistance à la demande de l'avis consultatif. Dans les années qui ont suivi l'avis, la pression politique sur le Royaume-Uni s'est accentuée. L'année dernière, le Royaume-Uni a accepté de reconnaître la souveraineté de l'île Maurice sur les îles Chagos. Du point de vue de la théorie de la régulation, l'affaire Chagos est un bon exemple d'acteurs avisés qui sont des fils relativement faibles pour former une toile réglementaire pouvant être animée par des roseaux. C'est également dans cette optique que l'on peut comprendre la demande d'avis consultatif à la Cour sur les obligations des États en matière de changement climatique. L'idée de saisir la Cour est née dans une salle de classe d'une faculté de droit à Port Vila au Vanuatu, l'un des États les plus exposés aux effets du changement climatique. En 2019, un groupe d'étudiants, les voilà, en dernière année à l'Université du Pacifique du Sud, a proposé l'idée de saisir la Cour au ministre des Affaires étrangères de Vanuatu, qui a, à son tour, obtenu le soutien des membres du Forum des îles du Pacifique. 4 ans plus tard, en 2023, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la demande d'avis consultatif par consensus. C'est la première demande d'avis consultatif de la Cour qui a avoir été adoptée sans vote formel de l'Assemblée générale. Je ne veux pas surestimer le potentiel, voilà l'équipe des îles Cook à la Cour, des avis consultatifs en tant qu'arme des faibles, car la décision de demander un avis consultatif demeure entre les mains d'organes dont les membres sont des États. Et bien sûr, la réponse éventuelle de la Cour à la demande n'est pas connue d'avance. Mais la théorie de la régulation nous rappelle qu'il peut y avoir une vision plus large de la manière dont les comportements peuvent être influencés et qu'il ne faut pas supposer que le droit est la seule influence. Et voilà la tisseuse allemande Annie Albers. Et donc, selon mon analyse, elle est clairement au travail. Et puis, je vous montre son tissage. C'est un tissage que j'aime beaucoup. C'est de Annie Albers qui s'appelle « Pâturage ». Mais selon l'analyse réglementaire, la Cour internationale de justice et sa jurisprudence peuvent être considérées comme un fil parmi d'autres constituant une tapisserie de régulation qui permet d'influencer le cours des événements. Mais ce fil peut se rompre si on lui accorde trop d'importance. Et sa solidité dépend de son tissage complémentaire avec d'autres types de régulation. Cela peut comprendre des travaux universitaires, des campagnes de pression sur les institutions et les politiques, les médias, ainsi que les pressions plus subtiles qui exercent l'art, l'architecture et la littérature. Alors, pour conclure, je vous donne les mots de l'universitaire américain Richard Folk. Et c'est, je cite, il dit « compréhensible qui quiconque, ayant enduré 9 années tranquilles à La Haye, ville grise et humide, ressort de cette expérience avec une détermination inébranlable de promouvoir la Cour, malgré les conditions défavorables actuelles. » Fin de citation. Je ne suis pour ma part à La Haye que depuis 3 ans, mais je suis parfaitement consciente des limites de la compétence de la Cour et de sa capacité à contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Néanmoins, je suis certaine que le droit international imprègne la société mondiale et influence l'arène internationale en réglementant l'emplacement et les limites de l'autorité. Mais pour cela, parce qu'elle opère dans un environnement intensément politique, la Cour doit s'en tenir strictement aux formes juridiques en identifiant les principes juridiques à même de résoudre les différends et éclairer le travail des institutions internationales. Ce soir, la thèse que j'ai avancée, donc, est que nous devons être lucides sur le potentiel et les contraintes de la Cour. La Cour n'est pas une panacée pour le règlement des différends internationaux et sa compétence demeure limitée, fondée sur le consentement des États. Cependant, la Cour est bien plus que la créature infortunée et le jouet d'États puissants. Elle mérite mieux de faire l'objet d'analyses fines pour comprendre sa culture, sa vie quotidienne, ses rituels et les possibilités qu'elle offre de promouvoir la justice internationale. C'est la fin. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.